Ce matin, je préférerais vous parler du mystère de la lumière, où en même temps, je vais parler un tout petit peu d'icône, mais presque pas. Hein. L'icône est une tentative de fixer sur une toile la beauté lumineuse du Christ, de la Vierge Marie, des saints, dans le décor de la création, en vue de rendre grâce au Seigneur de toutes choses. Voilà le sens de l'icône. Et la beauté nous apparaît comme un reflet de la gloire lumineuse de Dieu. C'est sous un vêtement de lumière que nous percevons cette gloire. Le mystère de la gloire du Dieu lumière a été surtout retenu par l'Orient chrétien. Les hésychastes affirmaient, c'est-à-dire les moines qui pratiquaient la prière de Jésus, qu'on appelait les hésychastes, affirmaient faire une expérience concrète de la lumière incréée. Et d'autre part, la spiritualité de l'Église d'Orient se fonde sur l'évangile de la transfiguration, qui révèle la gloire incréée du Seigneur Jésus dans la lumière taborique. La parole de saint Paul en Timothée, 1 Timothée 6, 16, met une limite à la connaissance que nous pouvons prendre de ce mystère. Car il écrit, Dieu le Père est le seul qui possède l'immortalité, qui habite une lumière inaccessible. Lui que nul d'entre les hommes n'a vu, ni ne peut voir. Eh bien, cette parole affirme deux choses. D'abord, l'invisibilité absolue de Dieu. Et deuxièmement, le caractère inaccessible de sa propre lumière. Et voilà bien qu'en même temps, le Seigneur Jésus vient nous montrer dans son être transfiguré quelque chose de cette nature divine. Alors il faudra comprendre comment, malgré l'impossibilité de contempler la lumière inaccessible, on peut néanmoins, grâce au Christ, en faire une certaine approche, ce qui a été rendu possible, le Seigneur nous le montre, par l'action du Saint-Esprit. Et un grand théologien de l'Église d'Orient, qui a donné à l'Église d'Orient sa théologie, il s'appelle Saint Grégoire Palamas, il est du 16e siècle, va nous apprendre à comprendre cette antinomie de l'impossibilité de voir et de la possibilité de voir, comme une sorte qui n'est pas de contradiction, mais une sorte d'antinomie, un contraire de toute réalité, qui vont quand même ensemble. Alors, premièrement, les deux lumières. La Genèse nous parle de deux lumières. La lumière du premier jour, quand Dieu dit que la lumière soit, il ne créa pas cette lumière, il la fait émerger. Mais d'où ? Certainement pas dans le monde, puisque le monde recevra la lumière créée des deux grands luminaires, le soleil et la lune, qu'au quatrième jour. Notre organisme peut détecter cette lumière, puisque nous faisons partie de ce monde créé, par notre organe de la vue, qui est en phase avec le monde matériel. Nous en prenons une connaissance sensible. Mais l'autre lumière du premier jour, quelle était cette lumière ? Pour notre expérience dans ce monde, la lumière est partout, sauf la nuit, puisqu'il n'y a plus de couleurs, puisque c'est la lumière qui permet les couleurs. Mais pour un aveugle, qu'est-ce que c'est que les couleurs ? La couleur, pour nous, se présente comme l'ornement des choses, des bêtes et de toute la nature. C'est comme quand tu touches, alors on va lui dire, c'est comme quand tu touches un pétale de fleur. Bon, très bien. Mais que dire encore? On voit combien on peut être désemparé quand on voudrait exprimer par des mots l'expérience que nous avons, nous, de la lumière. Et la beauté qui étreint toute chose est un constituant de la matière, se présente sous des formes et des couleurs différentes. Ce ne sont pas les couleurs héritières de la lumière qui créent la beauté, mais c'est la beauté qui crée les harmonies. Alors est-ce que la lumière, la beauté, est une ambassadrice d'un autre monde qui vient visiter le nôtre et qui, d'une certaine façon, lui a laissé comme un cadeau son empreinte? D'où vient la beauté dont quelqu'un dit qu'elle sauvera le monde? Eh bien, il est difficile d'aller plus loin sans recourir à la révélation. Lumière et parole de Dieu maintenant. La lumière de Dieu, Sainte Trinité, est, selon saint Jean, l'essence divine. Dieu est lumière. Et cette essence divine n'appartient qu'à lui seul. Seules les trois personnes divines ont en commun cette essence lumineuse que chacune des personnes possède totalement et qui en même temps est leur bien commun. Si la lumière première qui a créé l'ange ne peut pas être la lumière essentielle de Dieu qui n'appartient qu'à Dieu, néanmoins, elle doit peut-être être quelque chose qui s'en approche du plus près ou qui exprime le mieux cette lumière incréée, propre à la Sainte Trinité. Quelle lumière possède le Christ préexistant? Une question. En tant que Verbe de Dieu, existant avant son incarnation dans la chair, il est, lui, la lumière incréée. Et c'est bien sur le mystère du Christ qui est le Verbe et la parole créatrice, que tout a été fait. Alors on peut penser que c'est de lui dont il s'agit quand Dieu dit « que la lumière soit ». Ce serait le premier acte divin de création où Dieu sortirait de son éternité pour créer le monde dans la matière de lumière qu'est le Christ lui-même créateur. Et ce Christ se manifeste alors en dehors de la Sainte Trinité en tant que Verbe créateur. Cette réflexion est en accord avec le prologue de saint Jean qui nous dit « Au commencement était le Verbe. Le Verbe était avec Dieu et le Verbe était Dieu. Tout fut par lui et sans rien ne fut. » Le Verbe était la lumière véritable qui éclaire tout homme. Il venait dans le monde, il était dans le monde. Le monde fut par lui. Le Verbe s'est fait chair, il habitait parmi nous. Nul n'a jamais vu Dieu. Mais le Fils unique, qui est tourné vers le sein du Père, lui nous l'a fait connaître. Alors, les anges, certainement, ont été créés par cette lumière primordiale. Et puis nous-mêmes, à la suite, ne sommes-nous pas, comme dit saint Jean, des enfants de cette lumière, puisque nous sommes nous-mêmes créés dans le Christ qui est lui-même la lumière. Nous portons donc essentiellement nous-mêmes cette lumière. Elle a été corrompue par le péché d'origine. Et en fait, l'œuvre du Christ a été de la ressusciter. On doit penser que chaque homme qui vient au monde naît avec ce capital de lumière en lui-même et sa vie sera de dégager de sa gangue cette lumière pour réaliser sa vocation d'enfant de Dieu d'enfant de lumière. Eh bien, c'est à ce moment-là qu'on comprend l'importance du baptême. Car le baptême est ce sacrement de résurrection personnelle qui va jusqu'au fond de l'être pour l'illuminer. On appelait le baptême l'illumination. Le vêtement blanc que revêt le baptisé, c'est le signe de cette illumination intérieure. Et à l'intérieur de lui-même, le baptisé est dépouillé de ses habits de peau qu'il tenait du péché pour entrer dans une vie nouvelle. La lumière de la vie spirituelle maintenant. Au psaume 35, verset 10, nous lisons « En toi est la source de la vie, par ta lumière nous voyons la lumière. » La grâce du baptême dont je viens de parler apporte une nouvelle vision du mystère de Dieu, de l'homme et du monde. Le baptême est essentiel puisqu'il ouvre l'esprit à la vision mystérieuse d'une lumière qu'on peut appeler à un certain niveau une vision intellectuelle. C'est la vision que nous apporte l'intelligence. Dans notre intelligence, le baptême renouvelle, apporte une lumière. Dans ta lumière, je vois la lumière. Saint Augustin nous dit que les réalités saisies par l'intelligence sont beaucoup plus certaines que celles qui sont saisies par les sens. Cette vision intellectuelle est plus proche de la lumière divine, puisqu'elle vient de la raison. La vision spirituelle, saisie dans la lumière divine, les réalités supérieures de la vérité qui sont la sagesse. Et alors, elle permet la contemplation du mystère. Par cette vision spirituelle, nous connaissons les perfections divines et nous les verrons plus tard dans le royaume. Mais déjà, la lumière du Christ, que nous fêtons avec éclat le jour de la Sainte Résurrection, apporte à notre âme la conscience de la présence de Dieu. Elle meut notre intelligence en lui donnant une vision intellectuelle ou une lumière spirituelle qui manifeste la sagesse divine et l'amour dont nous sommes aimés. C'est l'apparition de cette lumière qui nous est donnée dans le mystère du baptême, qui crée dans l'âme la vie spirituelle et le désir de voir la vérité avec la joie. Et nous savons bien que quand elle s'éloigne, quand il nous semble la perdre, alors l'âme souffre et elle renouvelle son désir de la voir réapparaître. Cette lumière mystérieuse et qui est au fond de notre être et qui vient du baptême, cette lumière anime l'amour. Le Cantique des Cantiques a été construit sur cette sorte de pédagogie divine d'exciter l'amour dans l'âme de la bien-aimée. Les visites de l'époux comblent la bien-aimée et ses absences la rend folle, lui faisant demander partout où se trouve l'époux. Ainsi peut-on dire que l'amour est cette lumière dans l'âme et inversement que la lumière est amour, qu'elle manifeste l'amour du Christ dans l'âme fidèle par le don premier du baptême. Alors, remarquons maintenant que la vision de cette lumière est rendue possible par les sens spirituels. Voilà. Alors, Dieu nous a gratifiés d'un organisme intérieur qui correspond à l'organisme corporel. Selon cette compréhension théologique, au sens corporel correspond des sens spirituels en nous-mêmes. Et une fois de plus, c'est la grâce du baptême qui va nous éveiller à cet organisme intérieur. Il y a donc une relation vivante qui va se créer entre le corporel et le spirituel. Et s'il n'y avait pas cette possibilité apportée par le baptême, ben, on en resterait simplement qu'au sens corporel et non spirituel. Alors, par le composé humain, où non seulement notre organisme est corporel, mais qu'il est aussi spirituel, eh bien nous sommes d'une certaine façon en solidarité avec l'univers par nos corps, par nos sens corporels, et nous sommes en relation, en solidarité avec Dieu par nos sens spirituels. D'un côté, l'âme donne la vie en animant le corps, et d'un autre côté, ce qui affecte le corps retentit encore dans l'esprit. Il y a donc une relation entre les sens spirituels et les sens corporels. Le corps dispose de 5 sens. L'esprit doit avoir aussi 5 sens spirituels. Au sens commun corporel correspond la charité qui va unifier la personne spirituelle. Qu'est-ce que c'est que ce sens commun? Selon saint Thomas, c'est le sens qui unit les 5 autres sens corporels. Eh bien, dans le monde spirituel, ce qui unit les sens spirituels, c'est l'amour. Alors, selon certains auteurs, c'est le goût de Dieu qui est le premier. Pour d'autres, c'est la vue. L'Évangile nous a montré l'importance du toucher par lequel la femme hémorroïs est guérie en touchant le Seigneur. La vue a souvent la première place dans la hiérarchie de ses sens spirituels. Le Christ s'est fait connaître par sa présence au milieu des hommes qui l'ont vu, qui ont assisté à ses miracles. Mais ils ont aussi écouté ses enseignements. Quant à vous, dit le Seigneur, heureux vos yeux parce qu'ils voient. Heureuses vos oreilles parce qu'elles entendent. En vérité, je vous le dis, beaucoup de prophètes et de justes ont souhaité voir ce que vous voyez, ils n'ont pas vu. Entendre ce que vous entendez, ne l'ont pas entendu. L'heure n'était peut-être pas arrivée de la rénovation de l'homme. Les anciens n'en avaient peut-être que le désir de voir venir enfin cette heure. Mais le Christ est là. Et l'homme nouveau reçoit un organisme nouveau qui vient du Christ, que sont les sens spirituels qui permettent de le connaître, d'entendre sa voix et de le voir. Alors on saisit d'abord le Christ en contemplant son humanité, pour ensuite évoluer vers sa divinité. Sainte Claire enseignait cette contemplation à Agnès de Prague. Dans sa 3e lettre où elle lui montre le miroir de la croix, qui est le chemin vers la divinité, elle écrit « Place ton esprit dans le miroir de l'éternité ». Laisse ton âme baigner dans la splendeur de la gloire. Unis-toi de cœur à celui qui est l'incarnation de l'essence divine. Et grâce à cette contemplation, transforme-toi tout entière à l'image de sa divinité. Bonsoir, et ce que Claire nous enseigne là, c'est que c'est par la contemplation d'abord de la réalité physique humaine du Christ, qu'on s'en va vers la conscience de sa divinité. François dit, Delano rapporte cette parole, que sa bouche parlait de l'abondance de son cœur. On nous dit que la source du clair amour qui emplissait son âme laissait alors jaillir en dehors son trop-plein. Que de rencontres avec Jésus et lui. Il portait Jésus dans son cœur, Jésus sur ses lèvres, Jésus dans les oreilles, Jésus dans ses yeux, Jésus dans ses mains, Jésus partout. Eh bien là, on voit ce que sont les sens spirituels. C'est cette capacité de voir Jésus et de vivre de Jésus en tout. Le fruit de cette contemplation de l'humanité du Christ nous amène à la connaissance de sa divinité. De sorte que saint Paul nous dira, désormais nous ne connaissons plus personne selon la chair, même si nous avons connu le Christ selon la chair, maintenant ce n'est plus ainsi que nous le connaissons. Si quelqu'un est dans le Christ, c'est une création nouvelle. L'être ancien disparu, un être nouveau est là. 2 Corinthiens 5, 6. Donc c'est dans une lumière sans forme que le Christ se montre parfois aux privilégiés qui le voient. Et ils ont conscience que c'est bien lui qui est présent dans cette lumière, lui qui est lui-même lumière et qui nous a créés avec des sens spirituels qui nous permettent de le sentir présent, de le voir présent dans la foi. La foi est une vision de l'invisible. Troisièmement, la lumière taborique. Sur l'icône de la transfiguration du Seigneur, sur le mont Tabor, nous voyons une lumière qui emplit l'intérieur du corps du Christ. C'est ce que les apôtres, Pierre, Jacques et Jean, ont vu. Du subitement, le Christ entre dans une lumière éblouissante. Alors, nous savons que sur l'icône de la transfiguration, il occupe le centre et le sommet. Nous le voyons entouré de cercles concentriques qui s'éclairent à partir de lui-même. C'est lui qui est le personnage principal, c'est lui qui apporte avec lui la lumière incréée, parce qu'il est cette lumière. Dans le credo, nous dirons « lumière née de la lumière ». Splendeur éternelle du Père. Alors, quand on regarde cette icône, on a l'impression qu'il émerge subitement d'un centre qui nous est inaccessible. Et l'icône montre que c'est ce premier centre qui l'entoure est sombre, parce que c'est un centre inaccessible. On l'appellera un lieu apophatique, c'est-à-dire un lieu dont on ne peut rien dire. Et il vient progressivement vers nous, et il apporte progressivement la lumière. Les autres cercles qui sont autour de lui deviennent de plus en plus clairs. Il émerge du fond d'une inconnaissance que nous avons du mystère, il nous apporte, et cette lumière vient jusqu'à nous pour se réaliser comme lumière. Elle est le centre, n'est pas ce qu'on pourrait appeler des ténèbres, au contraire, mais la ténèbre. Il y a une grande différence entre les ténèbres et la ténèbre, qui est plus lumineuse, et qui, en fait, si elle est sombre pour nous, c'est qu'elle nous rend aveugle. On ne peut pas le voir, comme on ne peut pas voir le soleil. Si on fixe le soleil, on devient aveugle. Et alors là, le centre d'où vient le Christ, on ne peut pas le voir. Il y a tellement de lumière que pour nous, on est aveugle de voir, on ne peut pas voir, soutenir cette lumière. Et je trouve que l'icône de la Transfiguration est magnifique parce qu'elle me fait voir que, d'une certaine façon, en mettant ce cercle sombre là, on voit que là, il y a un lieu inaccessible. Ce n'est pas des ténèbres, mais c'est la ténèbre lumineuse. Celle qui est tellement lumineuse qu'elle nous rend aveugles. Ainsi, par les cercles concentriques, se révèlent les cieux que a dû traverser le Verbe en se faisant chair pour arriver au jour de ce monde créé. Mais il s'approche de nous comme lumière née de la lumière. Et nous le voyons progressivement dans notre vie. Nous commençons à le voir dans la révélation de l'Ancien Testament. Et puis, les cercles de sa gloire qui l'entourent s'humanisent, pourrait-on dire. Son vêtement de chair prend une forme humaine, c'est l'Évangile. La lumière incréée sort de la nuit incréée. Et voilà que nous pouvons contempler un Dieu devenu humain. Et si nous regardons maintenant l'icône en sens inverse, elle nous fait prendre l'autre chemin d'un Christ qui est là au centre de l'icône dans une réalité humaine et qui nous appelle à entrer progressivement jusque dans la ténèbre. C'est le mouvement du Christ qui est révélation et qui nous apporte la lumière. Il est au sommet de la montagne. Il est ce qu'il a toujours été, le Fils éternel. Et les disciples reçoivent la grâce de la lumière du Saint-Esprit. Parce que sans cette grâce, ils n'auraient jamais pu voir la lumière. C'est dans la lumière que nous voyons la lumière. C'est dans le Saint-Esprit que nous voyons les réalités spirituelles. C'est lui, le Saint-Esprit, qui adapte la vision humaine à la fulgurance de la lumière incréée. Et c'est lui qui donc donne à nos sens spirituels de pouvoir s'exercer. Il élève la vision qui nous est imparfaite à la vision de l'invisible en nous donnant la foi. Il ouvre notre oui à l'écho de la parole du Père. Et nous comprenons l'Évangile. Nous recevons la parole du Seigneur qui nous parle. Les disciples ont pu entrer dans l'étrange sommeil de la ténèbre pour entendre la voix du Père. C'est dans la ténèbre que Dieu habite. Vous savez, c'est le temple qui était le lieu, le Saint des Saints, qui était le lieu de la ténèbre, où Dieu est présent. Et au fond de notre être est là aussi cette ténèbre de la présence du Père. Le retour vers le centre, qui est le lieu de l'origine, sera pour nous autant de passages de la foi dans notre vie chrétienne vers l'invisible, autant de naissances spirituelles, autant de Pâques dans le mystère pascal que nous vivrons en qualité de fils adoptés. Nous avons donc un chemin de lumière à accomplir. Et chaque étape est une naissance à une autre connaissance plus profonde. Nous sommes comme nous entrons dans cette icône, et au fur et à mesure, nous entrons de plus en plus dans le mystère du plus profond qu'est le centre où habite le Père, et nous pouvons dire notre Père qui est aux cieux. Voyez comment on entre progressivement de plus en plus quand nous entrons dans ce cheminement que nous offre le Saint-Esprit. Plus nous avançons, plus la ténèbre se précise en nous. Les cercles deviennent de plus en plus foncés sur l'icône parce que le mystère grandit. Nous nous approchons de plus en plus de la source de l'incréé. Et Denis l'Aréopagite a écrit dans sa théologie mystique que le chemin vers le mystère monte en silence, vers l'ineffable, par une suite de négations. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure que nous avançons, nous avons une autre définition du Seigneur. Oui, le Seigneur est bon, mais il est bien plus bon que cela. Oui, le Seigneur est grand, mais il est bien plus grand que cela. Oui, le Seigneur est luminaire, mais il est bien plus encore luminaire que cela. C'est par une connaissance qui devient négative, parce qu'elle porte en elle, elle emmène encore plus loin. Si nous restions à une connaissance simplement qu'on appelle cataphatique, c'est-à-dire positive, si nous restions à cette connaissance, on ne sortirait pas du monde. Mais la véritable connaissance nous fait passer de plus en plus dans cette connaissance qu'on appelle apophatique, cette connaissance où le mystère devient beaucoup plus le mystère, parce que plus on avance, plus on sent bien qu'il est bien plus grand que tout ce que nous connaissons. Dieu est encore là, beaucoup plus beau que ce que nous pouvons penser. Et alors nous allons ainsi dans un chemin qui nous amène vers l'être absolu, vers le lieu absolu, où peut-être que dans certains moments de notre vie, de notre vie intérieure, de notre vie mystique, de notre contemplation, de notre oraison peut-être, Saint Jean de la Croix et les autres nous apprennent qu'il y a une oraison, qui est une oraison de bien-être, une oraison de simplicité, une oraison de bien-être, que là, peut-être, nous touchons, à ce moment-là, à ce qui est le plus Dieu en nous. Plus comme le Père, dans cette parole de l'évangélique, le Père qui habite là, ferme tes oreilles, ferme les portes de ta chambre, entre dans le plus grand secret, et le Père qui est là au fond te connaît et te rendra donc le bonheur, la grâce qu'il te donne de pouvoir faire ce chemin. On touche alors à quelque chose par le bonheur, par la paix, par la joie intérieure, à quelque chose, parce qu'on a fait ce chemin, on a fermé nos portes, on a fermé les portes de nos sens qui nous amenaient vers le monde. On est entré de plus en plus dans ce chemin du silence, c'est le chemin de l'oraison, et là on est bien loin de ce que sera bien sûr le royaume demain. On verra tout cela, mais du temps de notre terre, nous sommes entrés certainement dans la plus grande proximité du mystère du Père. Ainsi, l'icône nous décrit d'une certaine façon l'évangile de la venue de la lumière et de notre retour vers cette origine. Les autres théophanies de l'Exode, au temps de l'Ancien Testament, n'avaient pas la même importance pour la vie spirituelle. Mais elles nous rappellent quand même que la lumière, le feu qui couronnait la montagne et la présence de la nuée, elles nous rappellent que c'était déjà une première annonce de ce que sera la présence du Seigneur et de ce qui nous est montré dans l'icône de la Transfiguration. En conclusion, la vision de la gloire lumineuse du Seigneur dont ont bénéficié les disciples a été le fait du Saint-Esprit. C'est lui qui a élevé les disciples à une connaissance supérieure. Ce n'est pas tant le Seigneur qui a été transfiguré. En fait, ce sont les disciples qui ont été transfigurés parce qu'ils recevaient la capacité de voir l'invisible. Le Christ n'a jamais été autre que le Fils de la splendeur du Père, mais il a caché sa divinité dans le vêtement de sa chair. Il a consenti à habiller sa lumière d'un vêtement de chair de notre humanité. Cet événement du Tabor est fondamental pour la compréhension de la nature de la vie spirituelle. C'est sur la transfiguration du Christ que l'Église d'Orient a fondé toute sa spiritualité, en donnant au Saint-Esprit toute sa place dans l'œuvre de la divinisation des hommes. Alors nous allons recevoir ce témoignage maintenant de cette Église et nous allons lui demander de comprendre comment s'accomplit cette action du Saint-Esprit, de transfigurer notre humanité actuelle pour la rendre capable de voir la gloire lumineuse incréée. La vision de l'invisible. Le XIVe siècle a connu une forte polémique entre des artisans de la vision de la lumière incréée que soutenaient les Orientaux et que refusaient les Occidentaux. La discussion s'anima entre deux théologiens, un moine calabrais du nom de Barlaam, et un moine hésychaste. Barlaam était un moine occidental, un moine latin, et qui avait fait un chemin vers la spiritualité orientale, hésychaste, mais sans la comprendre réellement. De l'autre côté, il y avait un moine hésychaste qui était devenu archevêque de Thessalonique et qui s'appelle Grégoire Palamas, P-A-L-A-M-A-S. Barlaam, le moine, soutenait que la lumière taborique n'était rien d'autre qu'une lumière naturelle. Et on pouvait la comparer à une sorte d'aurore boréale. Il rejetait toute possibilité d'explication surnaturelle de l'événement. Il était passé à l'orthodoxie par amour de la véritable piété, disait-il. Il avait confiance des autorités qui lui confièrent des missions importantes. La pensée théologique de l'Orient l'avait attiré. Et voici qu'il se heurte à des moines hésychastes. Et voilà qu'en rentre une polémique entre lui et ses moines. Qui sont ces moines? Ces moines hésychastes étaient des moines, tout simplement, qui, dans leur immobilité, dans leur horizon, voyaient surgir en eux une lumière. Et ils affirmaient que cette lumière surgissait comme Au moment de la transfiguration, Jésus jaillit dans la lumière. Donc cette lumière était une lumière incréée. Et alors le moine, lui, ce moine calabrais, qui était en dehors vraiment de cette spiritualité-là, de cette expérience-là de la lumière, disait, je ne sais pas ce qu'est cette lumière dont ils parlent, ces moines, mais je sais bien qu'elle n'existe pas. Alors Grégoire Palamas prit le parti des moines. Il avait été lui-même un moine. Il avait été lui-même un hésychaste. Il avait fait de très nombreux écrits. C'était un très savant théologien. Et c'est lui qui prit le parti de tous les moines hésychastes et en dégageant en théologie la possibilité de voir effectivement une lumière qui n'est pas qu'une lumière créée, mais qui est la lumière incréée. Sa théologie, après beaucoup de discussions, a été enfin acceptée par l'Église byzantine. Elle reste toujours refusée en Occident. Et le pape Paul VI lui-même a refusé d'inscrire Saint Grégoire Palamas au synaxaire gréco-catholique alors que l'Église d'Orient l'avait canonisé. On voit qu'il y a toujours quelque chose qui nous... Là, on est dans le fond entre deux visions des choses différentes, quoi. Deux approches différentes du mystère. Il n'est pas possible de résumer les longues discussions, les longs travaux théologiques qui ont été publiés. Bon, là-dessus, il y a toute une littérature. Enfin, moi, je ne sais pas combien de livres j'ai pu lire là-dessus. L'affirmation des pères a toujours été que nous ne pourrons jamais voir l'essence divine, sinon nous serions devenus un autre Dieu par nature. Pourtant, nous sommes appelés à être en même temps divinisés et à devenir participants de la nature divine. Alors, comment concilier ces deux choses? Un appel à participer à la nature divine, une impossibilité de la voir. Eh bien, Grégoire va énoncer ce paradoxe qu'on peut voir Dieu sans qu'il s'agisse pourtant de son essence, de la vision de son essence, où Dieu est absolument inaccessible, mais qu'on peut être réellement divinisé par l'action du Saint-Esprit qui crée en nous cette vision incréée, qui est réellement une lumière incréée, sans que pour cela nous voyions l'essence divine inaccessible. Vous voyez quel paradoxe. Selon Saint Grégoire, c'est le Saint-Esprit qui va donner cette possibilité de la vision et de la transformation de l'être, comme il l'a fait pour les apôtres d'abord, qui ont eu cette capacité de voir Jésus transfiguré. Et Grégoire affirme un paradoxe. D'une part, l'essence divine est de fait invisible, inconnaissable, imparticipable. Et néanmoins, le Saint-Esprit développe des énergies qui entourent l'essence et qui donnent une véritable vision de l'incréé. Alors, on peut se faire une image. Vous avez le soleil. Vous ne pouvez pas voir le soleil. Mais nous savons très bien qu'il y a des protubérances. Et ça, ce sont les énergies du soleil. Nous pouvons les recevoir. Quand nous recevons ces énergies, Ben, ce sont des énergies du soleil. Ce n'est pas autre chose. On peut dire d'une certaine façon que ces énergies-là, c'est le soleil. Mais ce n'est pas le soleil. Ce ne sont que les énergies. Alors, c'est une image. Mais c'est cela qui permet de comprendre que ce sont les énergies divines. Il y a des énergies divines. Et ces énergies, ça s'appelle le Saint-Esprit. Voilà. Ce sont ces énergies divines qui entourent les sens, qui sont son rayonnement et qui donnent une véritable vision de l'incréé. Ces énergies sont la face accessible d'un Dieu inaccessible. C'est la participation à l'imparticipable. Celui qui le reçoit est divinisé par elle, sans que pour cela l'essence divine en soit affectée, c'est-à-dire que Dieu reste inaccessible et en même temps nous sommes devenus participants de sa divinité. La grâce, alors, ne s'appelle pas un don créé qui supplanterait notre faiblesse consécutive à la chute, comme le professe la théologie catholique, mais, selon cette vision orientale, c'est une action directe du Saint-Esprit qui est lumière. Dans ta lumière, je vois la lumière. Une action directe du Saint-Esprit qui agit dans l'âme pour la diviniser. Et les moines d'Orient ont tous affirmé cette vision de la lumière que dispense le Saint-Esprit, qui agit par des énergies incréées et qui leur apparaît au cours de la prière. Alors, témoignage des mystiques. Pouvons-nous attacher foi à ces affirmations? Est-ce de l'ordre de la grâce de recevoir des sortes de flashs de lumière en nous-mêmes, même sans savoir d'ailleurs s'il s'agit vraiment de cette lumière? Il y a une expérience de voir de temps en temps jaillir en nous, hein, dans notre front, de voir d'un seul coup la lumière, et ça correspond avec le cœur, c'est bizarre. Dans cette expérience commune de voir subitement une lumière très blanche, comme dans le ciel, on voit d'un seul coup apparaître de la lumière. Hein, vous avez un ciel chargé, puis d'un seul coup, il y a de la lumière. C'est comme si c'est la même chose qui se fait dans notre être. Et l'effet, c'est de sentir un bien-être. D'un seul coup, il y a quelque chose qui se communique, que communique cette vision de la lumière. Et ça s'en va. Et le désir, c'est de voir réapparaître à nouveau cette lumière. On a l'impression qu'on a touché le plus grand bonheur. Demandons aux mystiques de la lumière leur témoignage. Eh bien, ce n'est pas réservé qu'aux moines orientaux, puisque Saint Benoît, le père des moines d'Occident, a eu, comme Saint Siméon, le nouveau théologien en Orient, la vision de la lumière. Je vous rappelle cette vision de Saint Benoît. De sa fenêtre, il était en train de regarder le ciel, en pleine nuit. Il s'était levé pour regarder le ciel. Et puis, voici ce qu'il nous raconte. Pendant que les frères dormaient, et c'est Saint Grégoire qui nous rappelle cette vision, pendant que les frères dormaient, l'homme de Dieu, Benoît, assidu aux veilles, devançait l'heure de la prière nocturne. Debout, à la fenêtre, il invoquait le Dieu Tout-Puissant, et soudain, comme il regardait en pleine nuit, il vit une lumière qui venait d'en haut, qui dissipa totalement l'opacité de la nuit. Cette lumière resplendissait d'un tel éclat que son rayonnement au sein des ténèbres était plus puissant que le jour. Et dans cette vision, il se pensa ensuite une chose extrêmement prodigieuse. En effet, comme il le raconta lui-même plus tard, le monde entier, comme s'il s'était rassemblé sous un seul rayon de ce soleil, fut présenté à ses yeux. Eh bien, cette vision conforte ce que Grégoire Palamas a professé, que Dieu peut par grâce accorder la vision d'une lumière qui transcende la lumière créée. Et en Orient, nous voyons Saint Séraphin de Sarov, qui a reçu lui aussi la grâce d'être transfiguré sous les yeux de son disciple Motovilov. Cette transfiguration a confirmé au XIXe siècle la spiritualité de la divinisation par le Saint-Esprit dont a parlé Saint Grégoire Palamas au XVIe siècle. Et dans ce qu'a vécu Saint Séraphin de Sarov, que vous pourrez trouver, ce qu'il raconte, c'est tout à fait extraordinaire, sous la neige. Il est avec son disciple Motovilov, et puis alors ils discutent sur la façon de voir Dieu, ce qu'est Dieu, etc. Et tout d'un coup, il parle du Saint-Esprit, que c'est dans la vision du Saint-Esprit qu'on peut voir Dieu. Et tout d'un coup, l'autre lui dit « Mais comment on peut faire hein ?» Et Saint Séraphin lui dit, il le touche, et il lui dit « Voyez la lumière. » Et c'est à ce moment-là que Séraphin est transformé. La lumière jaillit de cet être, de Saint Séraphin, et l'autre le regarde et dit « Je ne peux plus vous voir. Vous êtes dans la lumière, je ne vois plus vous, je vous vois plus. » etc. On raconte, vous verrez cela, hein, cette transfiguration est très connue, vous pourrez la lire. Mais le grand visionnaire de la lumière, c'est Saint Siméon, le nouveau théologien. C'est lui qui nous donne le plus de détails sur les grâces qu'il a reçues de la vision de la lumière. Alors qu'il était novice, il avait 20 ans, quand il reçut pour la première fois la vision de la lumière. Et il la décrit à son père Igoumène, son père perpétuel, le père Igoumène, qui est donc le père supérieur du monastère. Il lui dit « Père, cela réjouit en apparaissant et cela blesse en se cachant. Cela se fait tout proche de moi et cela me transporte dans les cieux. C'est une perle. C'est la lumière qui me revêt, qui m'apparaît comme un astre et qui reste pour tous incompréhensible. Cela rayonne comme le soleil. J'y devine toute la création enfermée. Même vision que Saint Benoît. Cela me montre tout ce qu'elle contient et cela m'ordonne de respecter mes propres limites. Je suis enfermé sous un toit et entre des murs et cela m'ouvre les cieux. Je lève les yeux pour contempler les réalités d'en haut et tout m'apparaît comme c'était d'abord. » Après cette première vision de la lumière, les autres visions ne cessent de se multiplier. Et de nouveau, dit-il, la lumière m'illumine. De nouveau, elle se fait clairement voir. De nouveau, elle ouvre les cieux. De nouveau, elle éclaire la nuit. De nouveau, elle fait disparaître tout. De nouveau, je ne vois plus qu'elle. De nouveau, elle me fait sortir de toutes les réalités visibles. Et merveille, elle m'éloigne du sensible. Et il nous dit, lumière est le Père, lumière le Fils, lumière le Saint-Esprit. Les trois sont une lumière unique, non séparée. Dieu se laisse voir tout entier comme une lumière simple. Et il ajoute, je ne parle pas de la lumière de ce soleil sensible, ni de celle du jour, ni de celle d'une lampe, ni de la lumière des astres nombreux, ni même celle de la lune. Je veux montrer que l'éclat d'aucune lumière visible ne possède vraiment une puissance pareille. Il faut que les yeux spirituels du cœur spirituel soient illuminés d'une lumière spirituelle. Le mot « cela », j'ai lu, je suis en train de lire la vie de Bernadette. Et alors, ça s'appelle comment déjà le mot ? Akéro. Akéro. Elle dit, oui, c'est Akéro. C'est cela. Ça m'a beaucoup frappé, ça. Quand elle dit Akéro, elle a vu Akéro. On lui dit, mais qui c'est ? C'est Akéro. Et alors, lui, c'est cela. C'est-à-dire, c'est une même réalité, dans le fond.
Oui, il ne peut pas définir, c'est cela.
Les vertus illuminées par la communication de la lumière divine s'appellent aussi lumière. Ces vertus qui nous permettent de voir, de croire, de voir en nous-mêmes que les réalités spirituelles sont les vraies réalités, bien au-delà de toutes les réalités sensibles, ce que d'autres qui n'ont pas cette expérience et qui n'ont pas la foi nous traiteront de visionnaires, etc. Et nous, nous savons que ce que nous croyons, la foi qui nous fait voir, quand nous disons « Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, tout notre credo », eh bien nous affirmons une vision que nous avons des réalités vraies, définitives de Dieu. Et un autre pourra bien dire, bien sûr, ce credo comme nous, mais il peut le lire. Mais il ne comprendra pas, il n'acceptera pas, il ne rentrera pas dans cette connaissance que nous avons par grâce, issue de notre baptême, qui fait la vie spirituelle, la vie chrétienne spirituelle. Et quand il faut vraiment attacher une importance définitive extrême à cette connaissance que la foi nous apporte. Les vertus que le Seigneur nous a données, que l'on a essayé de décrire tout à l'heure, ces vertus qui nous sont données dans nos sens spirituels de voir, de comprendre, de toucher, eh bien ces vertus sont une communication, permettent la communication de la lumière divine. Et on peut les appeler aussi des lumières. Elles sont lumières parce qu'elles sont mêlées à la lumière, et qu'elles font une sorte de rayonnement en nous-mêmes, un rayonnement de la lumière qui nous éclaire et qui nous permette d'avoir la connaissance du mystère en nous-mêmes, tout en sachant que nous sommes sur un chemin, qu'au bout, il y a effectivement la vision que nous aurons plus tard dans le royaume, mais que notre chemin est un chemin de la lumière. Saint Jean, vous êtes des enfants de la lumière, marchez dans la lumière. Et c'est dans cette lumière-là que se réalise notre vie chrétienne. Alors si nous avons en chacun de nous cette conscience, nous avons le royaume. Ne le perdons pas. Ne nous laissons pas influencer par des gens qui ne sont que des gens du monde, que des gens de la vision simplement charnelle. Nous avons reçu, par grâce, la présence du Saint-Esprit en nous, qui est une grâce accordée à tous ceux qui reçoivent le baptême, mais qui le vivent, ce baptême. Et de ce baptême, qui est l'entrée ou la source, la possibilité de recevoir au fond de notre être cette lumière apportée par le baptême, qui est le Christ, la lumière du monde, puisque c'est dans le Christ que nous sommes baptisés. Et c'est cette lumière-là, l'effet du baptême, qui continue, qui se poursuit dans et qui fait notre vie spirituelle. Alors soyons heureux, mon Dieu, d'avoir déjà été éveillés du temps de notre chemin sur la terre, de la vérité du royaume. Sainte Claire d'Assise aurait raconté à ses sœurs que sa mère avait été secourue au temps de sa grossesse par une voix qui lui avait dit « Tu enfanteras une lumière qui illuminera puissamment le monde ». Et la bulle de canonisation de Claire débute par une louange de la personnalité de Claire qui est aujourd'hui encore une lumière pour le monde. Et c'est le vocabulaire employé dans ses lettres à Agnès de Prague qui nous permet d'avoir les meilleurs indices de ce que pouvait être l'illumination dans l'âme de Claire. Dans la troisième lettre, elle décrit le bien-aimé comme celui qui nous comble de sa bonté, qui nous imprègne de sa douceur et dont le souvenir est si lumineux, si doux à notre âme. Celui dont le parfum fait revivre les morts et dont la vision comble de bonheur les habitants de la Jérusalem céleste, puisqu'il est la splendeur de la gloire éternelle, l'éclat de la lumière sans fin et le miroir sans tache. Eh bien, je crois que vraiment nous pouvons dire que Claire est profondément dans cette spiritualité représentée parfaitement par l'Église d'Orient, de la réception, de la connaissance, de l'expérience, de la lumière, de cette lumière qui est l'œuvre du Saint-Esprit en notre être. Nous sommes enfants de cette lumière. Marchons dans la lumière, dit Saint Jean.